d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, vous êtes avec Gilles au micro, salut à tous, et bien sûr, Christophe et Ludo, salut.
Bonsoir.
Voilà. Alors, nous allons commencer cette émission par quand même quelque chose qui est important, c'est la coordination nationale qui s'est tenue le 27 avril 2014 des intermittents d'Île-de-France. Voilà, donc on vous propose en premier lieu un petit son que nous avons enregistré là sur place, un communiqué de la nouvelle coordination du CIP. Ensuite, Véronique, membre du CIP, qui va nous en parler un petit peu aussi. Thierry de Sudrail et employeur de la production culturelle de Lille. Et également Samuel du CICP d'Île-de-France. Et ensuite, nous reprenons bien sûr tous les sujets que vous connaissez très bien dans cette émission. Chômage, précarité, emploi, travail, etc. A tout à l'heure. Merci.
Saint-Denis, le 27 avril 2014. Depuis plusieurs semaines, dans toute la France, des collectifs luttent contre l'agrément de l'accord des nouvelles règles d'assurance chômage du 22 mars 2014. Les 26 et 27 avril, 20 régions se sont réunies pour constituer la coordination nationale des précaires, chômeurs, intermittents et intérimaires. Toutes les mesures de précarisation que prévoient ces accords entre dans le cadre d'une casse générale de la protection sociale. Pacte de responsabilité, attaque de la sécurité sociale et du Code du travail. Nous signalons que le MEDEF a prévu dans ce texte le cadre nécessaire, l'article 13, pour se passer de tout contrôle du gouvernement. Monsieur Rebsamen, ministre du Travail, si vous agréez cet accord, vous ne servirez plus à rien. Force de proposition. La coordination nationale propose un système juste et solidaire de l'assurance chômage. La coordination nationale lance dès aujourd'hui une étude sur le financement de la protection sociale. Force de colère, la coordination nationale affirme que nos actions ne connaîtront aucune pause. La coordination nationale rappelle que Franck Halimi, metteur en scène dijonnais, est en grève de la faim depuis 49 jours. La coordination nationale appelle les précaires, chômeurs et chômeuses, intérimaires, intermittents et intermittentes, retraités, salariés du public et du privé, avec ou sans papier, à se joindre à la mobilisation. La coordination nationale, réunie en assemblée générale, appelle à la grève le samedi 17 mai 2014. Ne vous y trompez pas, ceci est une déclaration de guerre.
Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ?
Véronique, voilà.
Intermittente ?
Je suis intermittente.
Statut depuis longtemps ?
Oui, ça fait 20 ans à peu près.
Donc vous aviez déjà participé au mouvement en 2003 ?
Oui, depuis 2003, je ne l'ai jamais quitté.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ce week-end ? Il y a eu des choses importantes, nouvelles, qui se sont dites, qui se...
Oui, des choses très importantes. De toute manière, on a acté l'élargissement. C'est pas du tout une lutte vraiment axée sur l'intermittence, mais vraiment la remise en cause de l'accord qui a été signé le 22 mars. Donc, qui touche le régime général, les intérimaires, etc., qui est complètement
précaire.
Et voilà, et qu'on remet en cause complètement dans sa pensée.
Les personnes en activité réduite aussi ?
Tout l'accord. En fin de compte, on met en cause tout cet accord qui, au lieu d'être dans une pensée de mutualiste, est complètement maintenant, voilà, tout est basculé vers un capital d'indemnisation qui est pensé vers des allocations journalières qui seront réduites, qui seront sur des durées des fois qui pourraient être longues. Enfin bref, de toute manière, les règles qui ont été mises en place, elles sont très floues. On remet en cause cet accord parce que déjà, par les négociations qui ont été faites, il n'y a pas eu de négociation. Il y a eu, nous, on avait des propositions aussi qui n'ont même pas été lues. Donc, on remet en cause le système même de comment se passent ces négociations.
Oui, il y a un problème de représentativité.
On remet, voilà, et pas que des les représentativités. Et aussi comment ça se passe. C'est-à-dire, voilà, que on réalise que c'est une feuille de route qui est complètement, c'est un dictat du MEDEF, et qu'on suit la feuille de route du MEDEF, et que ça n'est pas possible. Les premiers concernés ne sont pas à la table, et voilà, on met en cause tout ça.
Et puis le MEDEF va avoir une marge de manœuvre finalement de plus en plus grande pour modifier même les règles de calcul, des indemnités.
Voilà, en plus, dans le texte, article 13, ils ont décidé de pouvoir se réunir pour pouvoir revoir et réviser complètement. Ça va de l'indemnisation au mode de donc le mode de calcul, tout l'accord peut être complètement revu et corrigé complètement librement et sans l'agrément du gouvernement, parce que si le gouvernement agrée cet accord qui est très flou, il laisse la porte ouverte à un champ libre pour remodifier librement sans que le gouvernement ait un œil dessus pour la suite. Donc c'est en fin de compte.
Jusqu'à maintenant, c'était tous les 2 ans, non ?
Non, 3, et là c'est 2. C'est 2, mais repenser aussi à l'intérieur tous les 6 mois. On ne sait pas, ils doivent se réunir pour voir le cycle de ces réunions.
Oui. Est-ce que vous aviez perçu les conséquences de la réforme de 2003 ? Vous les avez ressenties, vous, dans votre vie professionnelle ? Ça a eu des conséquences ?
Bien sûr, ça a eu des énormes conséquences. Nous, on le voit parce qu'on fait des permanences d'accueil à Cap, à la CIPIDF Île-de-France, la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Et en fin de compte, on passe notre temps à essayer de dépatouiller des dossiers, entre autres d'intermittents et aussi de précaires, qui sont soupçonnés de fraude en permanence ou pour des petits bugs Pôle emploi ou non-application de la réglementation par Pôle emploi, etc., viennent nous voir. On arrive en général à réouvrir les droits de ces gens-là en étudiant les textes, les réglementations, les circulaires d'application, c'est très complexe. Donc ça veut dire qu'en plus la réglementation est complètement interprétée par Pôle emploi. Ce qu'on a analysé aussi globalement, c'est que voilà, il y a là l'UNEDIC fait une feuille de route, Pôle emploi est la boîte à outils de l'UNEDIC, donc du MEDEF aussi, même feuille de route. Et voilà, au bout de la chaîne, voilà, sont les chômeurs, une fois de plus, qui sont.
Alors, vous pourriez expliquer un peu aux auditeurs votre analyse au sujet de l'accord du 22 mars, par exemple ?
Oui, alors, sur l'accord du 22 mars, bon, d'abord, la lecture de cet accord, faut savoir qu'il a été rédigé dans des conditions qui sont absolument contestables. C'est-à-dire que on n'est pas dans une négociation de partenaires sociaux, on est dans des magouilles de couloirs où des intérêts privés des uns et des autres ont prévalu. Et résultat des courses, on est sur un texte qui ne défend pas l'intérêt général, qui ne défend pas la caisse et qui n'obtiendra pas les économies qui sont annoncées à l'opinion publique. C'est exactement le contraire qui est en train de se mettre en place. C'est complètement téléguidé, orchestré par le MEDEF, qui est à la manœuvre à travers l'UIMM, qui est son syndicat le plus dur et le plus antisocial. Et chaque point pratiquement de ce prétendu accord est contestable.
Et en plus, il y a un article assez nouveau par rapport aux modalités éventuelles de modification des indemnités de façon assez unilatérale.
Voilà, oui, tout à fait. Alors, c'est l'article 13 de cet accord. Jusqu'à présent, chaque accord, chaque application d'un accord de l'UNEDIC est obligatoirement agréé par le gouvernement, par le ministre du Travail. Et dans l'article 13, on a listé pratiquement toutes les questions où les soi-disant partenaires sociaux peuvent se s'affranchir d'une intervention du ministère et d'un agrément. C'est-à-dire que pratiquement tous les points de réglementation d'assurance chômage, si M. Rebsamen signe cet accord, tous les points pourront être vus sans que le ministre du Travail n'ait la possibilité d'intervenir et sans que personne ne puisse intervenir sur des choses qui sont, encore une fois, complètement téléguidées par le MEDEF.
Et donc même aussi sur les modalités de calcul des indemnités ?
Les modalités de calcul des indemnités, les cotisations, les taux de cotisation, les éléments de règlement sur l'ouverture des droits et tout ça, pratiquement tous les points dans l'article 13 sont révisables directement sans passer par un agrément ministériel. Encore une fois, M. Rebsamen ne doit pas signer cet accord, sinon la fonction même de ministre du Travail et de l'Emploi n'a plus de raison d'être en France.
D'accord, je vous remercie.
Nous avons des contre-propositions depuis très longtemps, mais nous avançons sur nos contre-propositions pour qu'elles soient ouvertes à toute l'intermittence de l'emploi en général et pas qu'aux intermittents du spectacle. Nous allons, pour cela, au niveau de la protection sociale, demander l'aide de plusieurs régions afin d'obtenir une étude de faisabilité et une étude économique sur la faisabilité de nos propositions. Nous voulons une réponse généralisée à la précarité. Il est insupportable de voir que plus d'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Seule la valeur travail est mise en avant. Et la question qu'on pose, c'est en attente du plein emploi proposé par tous et toutes, qu'est-ce qu'on fait ? Des petits boulots, le libéralisme veut la jungle sans contrepartie. Nous nous disons que face à cette jungle qui s'organise tous azimuts, on veut absolument des contreparties qui peuvent se traduire dans ce qu'on a pour appeler un salaire socialisé, à savoir une indemnité chômage digne pour tous.
La Joconde, je suis connue par le monde, au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde, attendez la fin du monde, et je sourirai sous les bombes, la Joconde, et je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde.
Et oui, vous venez d'entendre La Joconde, donc, de Juliette. Très belle chanson, n'est-ce pas? C'est moi qui suis le maître du monde. Non, ça c'est une autre chanson. Voilà, donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi d'AC1920, actuellement avec Ludo et Christophe. Bonjour à tous les deux.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Donc on va reprendre cette émission. Alors juste un instant pour vous dire quand même que ce que vous venez d'entendre juste avant la chanson, c'était quand même des interventions dans le cadre de la coordination nationale des intermittents de l'Île-de-France. Ils étaient donc interviewés par Odile qui est de notre équipe aussi et qui faisait les émissions sur les femmes, si vous vous souvenez bien, qui appartenait donc et qui appartient toujours d'ailleurs à Stop Précarité et à AC, évidemment. Voilà, donc on reprend cette émission sur le chômage et la précarité, juste pour dire quand même une petite annonce comme ça sur la part quand même des, puisqu'on parle de mondialisation et puis de pauvreté et puis évidemment de de travail précaire, on peut dire que la part des CDD par exemple dans les embauches aujourd'hui a atteint un niveau infernal, donc record, puisqu'au quatrième trimestre 2013, nous en étions à 83,7%, c'est-à-dire quatre emplois sur cinq qui sont effectivement des CDD. Donc il y a un CDI sur cinq dans le cas des embauches aujourd'hui. C'est quand même la crise est passée par là, quoi. Je veux dire.
C'est sans surprise, mais est-ce qu'il donne le nombre de jours ou la durée en fait des CDD?
Alors justement, le précédent record était de 83%, elle avait atteint au premier trimestre 2013. Au premier trimestre 2008, donc juste avant la crise, c'était à 70% des embauches qui étaient donc des CDD a priori en durée déterminée. Alors pour le temps, alors l'ADARES elle considère que donc c'est l'ADARES pour ceux qui savent déjà, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est le service d'études et statistiques et c'est la part CDD
du
ministère du Travail. Merci Ludo pour la précision. Les CDD dans les embauches augmentent au troisième trimestre 2013, quelle que soit la taille de l'établissement, donc plus 3 points pour pour ceux qui ont de 10 à 49 salariés, n'est-ce pas? Et donc plus 0,7 points pour ceux qui ont pensé des chiffres. On va peut-être arrêter avec les
mais
chiffres.
Ils ne donnent pas la durée, en
alors,
fait, moyenne.
Non,
ils ne
donnent pas la durée moyenne. Non, parce que je suis en train de lire un texte là-dessus. Oui, dis-moi.
Non, mais ça, c'est, tu vois, mine de rien, ce qui est intéressant, c'est que par l'intermédiaire d'un organisme institutionnel officiel qu'est la DARES, donc l'organisme des statistiques de l'évolution de l'emploi et du travail au niveau de l'État, ça, c'est une démonstration que aujourd'hui notre pays, de par sa logique économique, ne crée plus d'emplois. Mais il s'enrichit. Ça veut dire que l'argent, il y en a, mais il n'est pas dans l'économie réelle. Donc la question qui se pose les intermittents, un intervenant du spectacle posait très bien la question de fond. C'est d'abord qu'est-ce qu'on fait des 9 millions de personnes qui sont dans la précarité et la pauvreté? Qu'est-ce qu'on leur propose comme contre-modèle social par rapport à un libéralisme à tout va? Parce qu'aujourd'hui en France, au niveau du monde de l'emploi, on peut dire qu'on est dans une logique anglo-saxonne, quoi. Le libéralisme, c'est une réalité. Même s'il y a le code du travail, maintenant, c'est en train de devenir le code du capital, c'est clair.
C'est-à-dire que plus la crise dure, et effectivement, plus les tendances, les conditions des travailleurs se dégradent de fait, en fait. On peut supposer qu'il y a d'une part un abus, en fait, un effet d'aubaine, en fait, au vu de la masse de gens au chômage par les employeurs. Et puis, d'un autre côté, il y a effectivement une réelle crise, donc une réelle instabilité économique. On peut supposer que les entreprises ont du mal à recruter, et quand elles recrutent, elles ne recrutent pas forcément pour longtemps. Donc, et qu'elles peuvent avoir besoin de main-d'œuvre la moins payée possible. Donc, tout concourt à tirer vers le bas les conditions de travailleurs. Mais ceci dit, je posais la question sur les jours, mais d'après la NPE.
Oui, mais alors tu as raison, parce qu'effectivement, l'ensemble de ces CDD sont de très très courte durée, donc je ne sais pas exactement le nombre de jours, mais bon.
Le nombre de CDD de moins d'un mois avait explosé selon la NPE, justement. Donc on peut se demander quel type de boulot sont proposés avec des CDD de moins d'un mois. Est-ce que c'est serveur? Est-ce que c'est.
Oui, c'est des services, serveurs, peut-être le bâtiment aussi,
Ou le bâtiment, enfin, pas des trucs super qualifiés, quoi. J'imagine, en tout cas pas des cadres à qui on va faire confiance et qu'on va devoir former, quoi.
Alors quand même, en mars, le nombre des demandeurs d'emploi sans activité s'est stabilisé à 3,349 millions, donc 3,3 millions à peu près de demandeurs.
J'aime bien le stabiliser.
Oui, c'est bien, c'est stabilisé. Parce que ça augmentait, parce que des fois ça augmente et ça descend, mais là apparemment c'est toujours pareil depuis.
Oui, non, mais je crois qu'il y a eu une petite légère augmentation.
Je crois aussi.
C'est une stabilisation dans le ralentissement de l'augmentation.
Voilà. D'accord.
Non, mais c'est bien. C'est un point de vue sémantique.
Voilà, c'est la nouvelle langue.
C'est la nouvelle langue, voilà. Entre la rigueur et l'austérité. Ouais, non.
Oui, c'est pas. Après,
il y a une différence, mais.
Oui, moi je la vois pas trop, en fait. Alors, il faut savoir également que les CDD ont représenté quand même, en termes de licenciement, 22,7% des nouvelles inscriptions à Pôle emploi.
Mais c'est toujours, tu sais que c'est toujours terrible, le cas. Les CDD sont les premiers pourvoyeurs de chômeurs à Pôle emploi. Oui, bien entendu, par rapport au CDI et par rapport. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par CDD? C'est bien entendu les intérimaires sont aussi des CDD.
Oui, bien sûr.
Bon, en même temps, ce qui veut dire que c'est toujours la variable d'ajustement. C'est-à-dire que on a une période où c'était le nombre de CDI, de licenciements économiques secs, donc c'était des CDI qui rentraient directement à Pôle emploi, et là on est sur un truc où c'est plutôt les intérimaires et les contrats courts des gens précaires en fait, qui se retrouvent au chômage, comme nos amis les intermittents du spectacle.
Alors, est-ce qu'on peut dire par là que, effectivement, parce que là, on va parler peut-être un petit peu de ce qui se dit sur Internet depuis la presse américaine et anglaise, britannique. Il y a effectivement une rumeur qui court comme quoi les Français sont des feignants, mais apparemment ils veulent travailler, mais ils n'ont pas d'emploi, a priori.
Et c'est évidemment les Américains qui disent ça.
Alors, c'est dans Courrier International, donc ça va nous en parler tout de suite. Dans Courrier International, effectivement, il y a une rumeur comme quoi, effectivement, les Français seraient des feignants, Christophe.
Alors oui, alors ça c'est en fait la rumeur elle est partie, c'est ce qu'on appelle le fresh bashing, c'est-à-dire qu'en France, au prétexte qu'on a développé les 35 heures, ça a été un tel symbole que on a considéré que c'était l'origine de tous les maux, des freins de la compétitivité, de la productivité, de la flexibilité de l'économie salariale française. Donc il y a une rumeur qui a été balancée comme quoi une loi interdirait d'envoyer des courriels professionnels après 18 heures. voilà.
Donc ah en oui, fait, c'est la dictature en France. Hein, vu de...
En fait, le contexte est le suivant. Hein, c'est un extrait de The Nation de New York, hein, un journal, un quotidien de New York. Hein.
Inconnu au bataillon.
Inconnu au bataillon. Donc, je pense que The Nation déjà, ça.
The Nation, ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Ça veut dire.
C'est chouette. Voilà. C'est un petit truc qui claque.
Voilà, je pense qu'on est plus proche de minutes que.
Oui, non, mais ça, c'est ton interprétation.
Non, mais c'est proche du type parti.
Reste scientifique.
Non, mais les chiffres. Voilà, c'est. Donc. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dizaine de jours, il y a toute une génération de travailleurs super stressés qui s'est mis à bourdonner, à buzzer, à clapoter sur Internet, parce que, les Français avaient interdit les courriels professionnels après 18 heures. Les managers français qui travaillent dans les secteurs de l'informatique ou du conseil allaient donc devoir cesser d'envoyer des mails et autres communications professionnelles à leurs collaborateurs en dehors des heures du travail. Donc là, c'est le drame. C'est le drame.
Et on aimerait tellement que ce soit le cas.
Dans une économie libérale où le salarié n'est pas là pour s'épanouir mais être au service ad vitam aeternam de l'entreprise et du capital et des rentiers, c'est le drame. C'est le drame. Donc en fait, c'est purement et simplement du pipeau. Parce que The Nation continue cette mesure allait contraindre les gens à résister à la tentation de consulter des messages professionnels sur leur ordinateur ou sur leur smartphone pour échapper à toute intrusion malveillante pendant le temps qu'ils sont censés consacrer à ce que les Français appellent la Dolce Vita.
Et douce vie, pour eux,
c'est
pas
italien. Alors c'est italien, la Dolce Vita, hein, pour savoir.
Donc, d'après l'article de ce journal, cette rumeur allait enfin permettre de ne plus être embêté par les patrons une fois la journée de travail terminée.
C'est sûr qu'on est harcelé.
Alors là, c'était la moquerie.
Après 18 heures, d'ailleurs.
La France défend avec acharnement sa qualité de vie, la vie après 18 heures. On pourrait presque entendre des verres de champagne s'entrechoquer dès 18 heures, dès que les employés sont habillés en Vuitton, éteignent leur portable et envoient balader leur supérieur. Oui, 18 heures, c'est l'heure de la belle vie. Sauf que en réalité, rien n'a vraiment changé puisque, comme l'a notamment fait remarquer le site Internet BuzzFeed, cette mesure n'est pas une loi, mais un accord professionnel. En fait, il s'agit d'un avenant de l'accord de 1999 sur les 35 heures. La CFDT et la CGC, entre autres, et les fédérations patronales ont décidé, après négociation, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des heures normales du travail, lesquelles sont mesurées en jours travaillés par an. Et alors, il n'est pas une question d'heure fixe, mais encore moins d'une interdiction après 18 heures. Alors, il y a un petit éclairage de Michel Sen qui a publié cet article. Il dit, les Français ne sont pas du tout des feignants, puisque sur les 250 000 personnes qui sont concernées par cet accord, puisque c'est un accord pour les cadres, ces gens-là, ils travaillent en moyenne 78 heures par semaine.
Ben oui, ils sont à 35 heures, les pauvres.
Voilà,
d'ailleurs, on leur a pas expliqué, outre-Atlantique, ce qu'était le forfait jour. Hein. Voilà. C'est-à-dire que les 35 heures Manu Militari.
Exactement. Donc, l'accord vise simplement à réduire ce stress permanent qui fait que on peut être, y compris dans sa vie privée, à être importuné par le professionnel. C'est tout simplement une mesure de bon sens. Et de plus, c'est que derrière cette longue tradition qui décrit les Français comme des snobs, des canons d'un côté, des parasites rétrogrades à l'autre et qui oppose tout effet paralysant de la protection sociale au dynamisme du capitalisme à l'américaine, n'est-ce pas ? Les commentateurs étrangers font une fixation sur les solides protections qu'offre le droit en fait du travail français.
C'est de la jalousie, c'est tout.
Exactement. Alors par exemple, il y a une chose qui les horripile, c'est le dimanche chômé.
Ah oui, ça c'est. Ouais.
Le dimanche, ça, c'est ça, le dimanche peut être chômé.
Parce que donc.
C'est pas le jour du
Alors Seigneur, l'exemple pas, parfait ouais. de celui qui a pété la durite par rapport à ça, devinez qui c'est. C'est Maurice Taylor, le PDG américain du fabricant de pneus Titan, qui avait évidemment dit « Ouais, les Français sont des paresseux, fuck off !» Ils passent une heure en pause à déjeuner, discutent pendant trois heures et travaillent pendant trois autres. On m'a dit que c'était comme ça en France. Donc j'aime bien La dégarache. Non, mais attendez.
On m'a dit.
J'adore le concept. Le mec, il est PDG d'une des plus grosses boîtes du monde. Il va avoir la responsabilité morale, civile et pénale de gérer une boîte qui veut reprendre en France, notamment les Goodyear, à côté d'Amiens. Et le mec, il arrive, et en guise de dialogue social, il fait, au fait, vous êtes des fainéants.
C'est un autre monde.
Alors, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'en en vérité, c'est du pipeau intégral. La vérité vraie, c'est l'OCDE.
Si je mens.
Voilà. La vérité vraie, c'est l'OCDE qui a cassé la France parmi les pays les plus productifs en termes de production de richesse intérieure par heure travaillée. C'est-à-dire que on fait peut-être 35 heures, mais alors pendant les 35 heures, on taffe.
Bah, apparemment,
pas qu'un peu.
C'est pas,
et pas qu'un peu. On taffe même beaucoup.
Il faut pas croire que, je veux dire, que les salariés allaient s'en tirer avec les 35 heures sans travailler plus dans le temps.
Mais exactement. Et en fait, la réalité vraie, la vérité vraie, c'est que les Français, ils font près de 40 heures par semaine en moyenne.
Ah oui, tout à fait. Non, les Français travaillent plus que les heures. Sauf, enfin, c'est plutôt vrai pour les professions intermédiaires et moins vrai pour les professions. En fait, disons pour les gens qui sont mensualisés, on va dire du moins. C'est moins vrai pour les gens qui sont vraiment à 35 heures.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, comme on est le pays des loisirs et qu'on s'occupe de nous-mêmes, qu'on a deux fois plus de jours de vacances et qu'on joue malgré tout d'un pouvoir d'achat un peu plus supérieur d'un tiers, paraît-il, ça a vérifié, parce que c'est que
pouvoir d'achat d'un tiers supérieur à qui
aux Américains, mais je suis très surpris, moi je suis très surpris par ces chiffres, moi je ne crois pas que c'est plutôt un tiers en moins. La vérité vraie, c'est qu'en fait, en France, il y a 700 conflits collectifs du travail contre moins de 140 pour l'année de 2013 et seulement 17 pour les Américains. Et 140, c'est chez les Anglo-Saxons. Donc, en fait, ce qui ennuie profondément les libéraux et les capitalistes, c'est qu'en France, il y a une conscience collective, il y a des syndicats qui défendent les gens.
Absolument.
Et c'est ça le gros problème. C'est pas la paresse qui énerve le dirigeant de Titan, c'est les syndicats qui sont pas laissés faire. Il reprochait aux syndicats d'avoir rejeté toutes ces propositions en matière de réduction du temps de travail, d'avoir refusé de négocier des réductions de postes. Exactement. Et en fait, la réalité, c'est que les Français travaillent énormément. Alors,
et qu'ils ont beaucoup de vacances.
Et voilà. Et en fait, le fait, c'est que les Français s'accrochent aux acquis sociaux qu'ils ont eus en lutte, sur des décennies de lutte. Et c'est ça le vrai problème. Alors, ce qui est intéressant, parce que on parle donc de la logique libérale et capitaliste, mais l'auteur de l'article fait remarquer une remarque pertinente. Il dit, mais il y a une contradiction. Alors, devinez laquelle. Je vais vous répondre. C'est que, dans le même temps, ces gens qui traitent les Français de feignants, alors qu'ils bossent bien plus que la moyenne des pays riches, selon les chiffres de l'OCDE, en fait, c'est ces mêmes qui, ensuite, pour se débarrasser du stress au travail et de débrancher, qui prônent le « s'occuper de soi ». Bonjour la contradiction. Alors, c'est la contradiction permanente. Donc,
oui, le take care, c'est ça.
Exactement.
Des autres aussi, ça veut dire.
Juste une question, Christophe. Est-ce que les rentiers travaillent? Je voulais savoir, la question.
Ils travaillent.
Mais on ne voit pas le rapport, là. On parle des salariés.
En contrapartie, c'est-à-dire à l'inverse, c'est ce que les rentiers qui détiennent.
Oui, ils travaillent. Mais ce qu'ils travaillent, ils travaillent, mais ils travaillent sur une chose, leur argent.
Voilà.
C'est un métier. C'est un métier.
Fin de la parenthèse.
Voilà. Il faut savoir que les Chinois s'en sont mêlés, parce que le French Banking s'internationalise. Donc, la nouvelle loi, je lis parce que c'est du délire. Donc, la nouvelle loi française interdit aux entreprises de joindre leurs employés à partir de 6h du soir jusqu'à 9h du matin. Cette information publiée après deux semaines dans les médias anglo-saxons a été immédiatement traduite en chinois et passionne les internautes chinois qui avouent leur admiration pour les bonnes conditions de travail en France et s'interrogent sur leur propre modèle. Mais cette nouvelle réjouissante venue de l'autre bout du monde a été rapidement démentie. Le quotidien réputé Xinxin Bao a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une loi, mais seulement d'un accord professionnel. Des ardeurs. Voilà. Bien évidemment qu'on ne... les médias anglais ont comporté une fausse nouvelle, soit à cause d'un problème de compréhension linguistique, soit pour se moquer de la fainéantise présupposée des Français, a souligné le journal. Voilà. Alors, c'est magnifique.
Voilà, donc les travailleurs français sont enfermés dans leur travail, et puis en même temps on va écouter une petite chanson qui s'appelle comme ça, c'est-à-dire que si on s'enferme, voilà.
Ça y est, c'est fini. Ce matin, l'usine était fermée.
Eh oui, comme vous l'aviez compris, ce n'était pas si on s'enferme comme je l'avais dit au début de la chanson, mais silence, on ferme, excusez-moi. C'est à force de dormir sur mon lieu de travail qui fait que je me trompe de temps en temps. Ça arrive.
C'est vrai que t'es pas très...
Voilà.
Nous allons t'appeler après 18h pour que tu deviennes un bon petit soldat du capitalisme.
Voilà, mais je ne serai jamais un bon petit soldat du capitalisme, je serai un bon soldat du collectivisme planifié comme en Russie. Je plaisante.
Français feignant.
Voilà. Donc vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est toujours et désormais depuis 20 ans l'émission d'AC, bien sûr, AC, Agence contre le chômage. Je suis avec Ludo et Christophe. Bonjour à tous les deux.
Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir.
Nous reprenons cette émission pour parler un petit peu du détachement des salariés, Ludo, enfin du voilà des travailleurs de la directive absolument sur les travailleurs détachés.
La directive Frankenstein.
Et justement. Voilà. Alors j'allais justement commencer par là. Est-ce que vous vous souvenez tous de la directive Bolkestein, rebaptisée en son temps effectivement directive Bolkestein?
Qui s'en Frankenstein. Ici,
qui s'en alors, on a beaucoup parlé dans cette émission. Et je me suis...
voilà.
Oui.
Alors donc voilà. Bon bah du coup je pourrais. Oui. Donc je pourrais faire en sorte. Eh ben écoutez cette émission se termine. Bien, je suis ravi de vous.
Bien. Donc on avait. Si je m'abuse, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Ludovic. La directive Bolkestein était au nom de la libéralisation de l'économie des échanges. Oui. Et des personnes et
des services.
Mais effectivement des personnes via les
services. Il était donc du fait de la zone euro, il était désormais possible d'engager des salariés issus de la zone euro, par exemple
de l'Europe,
ouais. Donc polonais, roumains, aux conditions sociales de leur pays, aux conditions salariales de leur pays
d'origine, tout à fait.
D'origine. Donc vous êtes payé 300 euros en Pologne, ça sera pareil, mais vous serez en France.
Exactement.
Alors il faut nuancer. D'abord, la directive Bolkestein existait auparavant, mais donc elle ne portait pas ce nom puisque c'est la directive effectivement sur les travailleurs détachés qui permet à faciliter en fait les services. Alors pourquoi elle existait, c'est que lors de l'entrée dans l'Union européenne des pays de l'Est, donc nouveaux entrants, dans un premier temps on leur a interdit la mobilité directe des travailleurs. Donc je m'explique, la mobilité directe ça veut dire que toi polonais ou tchécoslovaque, donc Gilles Cheska, polonais ou tchécoslovaque, tu ne vas pas pouvoir émigrer en France pour travailler.
D'accord.
Point. Mais à la Commission européenne, qui est quand même libérale, on est en train de créer un marché intérieur, eh bien, on s'est dit qu'on pouvait faire bénéficier les entreprises polonaises ou tchécoslovaques du marché intérieur français, par exemple, ou britannique, ou je ne sais quoi d'autre dans l'Europe. Et oui, en fait, c'est le principe même de la construction de l'Europe, créer un marché intérieur. Et donc voilà. Et donc du coup, c'était finalement le seul intérêt qui restait à l'adhésion des pays. Enfin, peut-être pas le seul en dehors de l'aide financière, mais un des intérêts essentiels pour les pays de l'Est, c'est-à-dire que ça se concrétise en termes de débouchés d'emplois en quelque sorte pour leur population et d'échanges aussi. Bref. Un truc normal, c'est le fondement de l'Europe libérale. Donc voilà. Et donc, cette directive existait de toute façon auparavant, puisque dès les années 80, eh bien, il s'est trouvé des entreprises françaises pour faire venir des travailleurs portugais pour faire la fameuse ligne du TGV. Et donc là, le principe est le même, c'est qu'en réalité, l'entreprise portugaise répond à un appel d'offres que fait l'entreprise française, donc l'entreprise portugaise devient sous-traitante, et dans ce cadre-là, donc dans le pays d'origine, et dans ce cadre-là, elle fait venir au titre de cette entreprise-là une cohorte de travailleurs portugais qui travaillent pour l'entreprise. Là, en sous-traitance, vous avez saisi la nuance. Donc, ce sont des travailleurs détachés de l'établissement se trouvant dans le pays d'origine. Bon, évidemment, les syndicats, ça n'a pas trop plu aux syndicats.
Pour cause.
Et du coup, l'affaire a finalement été portée devant la Cour de justice à l'époque européenne. Et donc, il a fallu formaliser tout ça, puisque voilà. Et donc, on a dit bon, voilà, il est vrai que bah oui, c'est un dumping social caractérisé. Sans blague, ça n'étonne pas à personne. Et ceux qui vous ont dit le contraire pendant la directive Wolkenstein, ben, étaient des grands manitous ou des grands manipulateurs,
oui,
je ne sais pas.
Si tu payes avec toutes les charges sociales en France un même OSPIC, ça fait à peu près...
Ça n'a aucun intérêt.
Aucun intérêt, ça fait à peu près 2000 euros par mois.
Voilà.
Hein, et puis, sans les charges sociales polonaises, ça va faire 600 euros. Alors évidemment...
Alors, il y avait deux choses, hein, il y avait deux arguments. Y a le premier argument, par exemple, c'est effectivement, tu vis en France, donc tu vas respecter le SMIC français. Donc, effectivement, ça n'a aucun intérêt de faire venir un travailleur étranger si tu le payes au SMIC français, c'est-à-dire pour l'entreprise qui a allé chercher ses travailleurs, ça n'a strictement aucun intérêt. Autant par contre, si tu embauches un informaticien de portugais, mais que tu ne peux que, à la limite, tu peux te contenter de le payer au SMIC, sachant qu'il le gagne peut-être.
Ça
là, ça devient intéressant.
Ça change tout, ouais.
Voilà. Donc, du coup, on imagine le barouf qu'a fait la directive Wolkenstein parce que, le dumping social que ça peut faire parce que, du coup, ça casse les conventions collectives en France. Le droit est quand même très réglementé. Bon. Bref. Le fait est qu'on a choisi ce mode-là parce qu'il s'agissait de professions aussi qui n'étaient pas forcément à haute valeur ajoutée, en quelque sorte, on pourrait dire entre guillemets. Donc, l'idée étant de respecter donc les contraintes du pays d'accueil, donc en l'occurrence le salaire minimum, le SMIG, mais de payer les charges sociales qui correspondent au pays d'origine, donc les charges sociales portugaises. Et donc, on est toujours dans un petit cas de dumping social.
Absolument.
Et donc, la directive Wolkenstein prévoyait bien entendu, monsieur Wolkenstein étant un éminent membre de l'Internationale libérale, oui messieurs, ça existe, l'Internationale libérale, oui. Prévoyait bien entendu,
c'est les disciples d'Hayek.
De détruire, entre autres.
Mais des européens, quoi.
J'imagine, imaginez bien entendu, c'était quand même un ancien commissaire européen, hein, c'est un commissaire européen, imaginez bien entendu de pouvoir se passer de tout ça, notamment des réglementations nationales, de SMIC minimum, du salaire minimum national, et de pouvoir donc appliquer les critères du pays d'origine, et donc de déréglementer littéralement tout ça, de faire exploser, d'organiser le dumping social.
Voilà. Bon. Et c'était une attaque aussi sur le code du travail, droit français, etc.
Oui, c'est-à-dire, mais il y a l'Europe, bien entendu.
Oui, bien sûr.
Donc, évidemment, la directive Wolkenstein.
Vous n'êtes pas content, je vais chercher un informaticien lituanien parce qu'il me coûtera deux fois moins cher grâce aux charges. Voilà, oui, c'est clair.
Alors, la directive Wolkenstein, elle est plus loin, hein, puisque là, il s'agissait réellement de payer le travailleur, par exemple, lituanien, l'informaticien lituanien, au salaire lituanien, hein,
oui,
en France.
Ça,
on est bien d'accord.
Oui.
Donc, elle a été foutue à la poubelle, et on est resté sur cette fameuse directive qui date de 96, je crois, la directive des travailleurs détachés, qui donc enjoint de respecter la réglementation du pays d'accueil, et sauf pour les charges sociales qui sont versées dans le pays d'origine. Voilà. Et donc, je me souviens, moi, d'un débat, à cette époque de la directive Wolkenstein, où finalement, l'argument des Wolkensteinistes, il n'y en avait pas beaucoup, était de dire, mais non, de toute façon, on respectera parfaitement la réglementation du pays d'origine. Eh oui. Et d'ailleurs, c'est très très simple, respecter la réglementation du pays d'origine, eh ben, il suffit d'aller chercher les textes réglementaires du pays d'origine pour l'inspection du travail du pays d'accueil. Donc, ça veut dire pour l'inspection du travail française d'aller chercher la règle droit du travail en Lituanie pour vérifier si l'entreprise détache bien tout ça. Et donc, bien entendu, la première, ce réflexe pour quelqu'un de sensé, au-delà de tous ces arguments, c'est mais bon, franchement, l'inspection du travail, d'ailleurs, vu dans l'état où elle est, elle aura pas vraiment le temps d'aller vérifier que le pays respecte bien la norme du pays d'origine, que et tout simplement parce qu'il faut aller chercher les documents dans les 27 pays, les faire traduire, et puis finalement on va organiser une espèce de bazar organisé, on va dire, qui va rendre tout ça ingérable, et finalement c'est probablement le but. C'est le but ultime de ce type de...
En tant que contrôleur du travail, va te mettre, je sais pas moi, aux Croates ou aux Serbes.
Non, mais même pas. Mais va demander simplement la traduction pour chaque entreprise.
Bon courage.
En termes de moyens humains, bon voilà. Voilà. Et donc le débat était resté là. en été resté là, j'ai envie de dire. Et voilà, qu'il refait surface cette année. On est en 2014.
Oui, effectivement.
Il y a eu, combien, ça fait 6 ans de crise derrière nous.
Ouais.
Et donc, la directive Focus Chain n'avait pas été appliquée, mais on a toujours cette directive des travailleurs détachés. Ouais. Et donc, et elle repasse au Parlement européen. Et pourquoi elle repasse au Parlement européen?
Et pourquoi donc elle repasse au Parlement européen?
Eh oui, pourquoi? Parce qu'entre-temps, vois-tu, il y a ce qu'on appelle, alors entre autres, hein, mais un rapport d'information qui a été déposé par la Commission des affaires européennes française, de l'Assemblée nationale française. Donc, Commission des affaires européennes, qui est tenue pour une part majoritairement par des socialistes, puis ensuite par des gens de l'UMP, par deux, trois verts, vous voyez, c'est représentatif en fait. Hein. Voilà, donc des gens qui ne sont pas anti-européens, loin de là. Loin de là. Et donc, ce rapport d'information est un réquisitoire d'extrême gauche, on va dire, contre la directive sur le détachement des travailleurs. Voilà. Et donc, on a envie de dire un texte d'extrême gauche matiné d'une pointe de Front National concernant l'Europe. Un petit peu brutal. Non, c'est pas du tout étonnant. C'est simplement que il arrive parfois aux parlementaires de faire leur travail. Et pas forcément de faire donc de la politique, mais c'est-à-dire d'aller regarder un peu les faits, les témoignages, des choses comme ça, tout simplement. Donc ça veut pas dire du tout qu'ils vont être suivis, que leur avis va être écouté par le gouvernement, par la Commission, par le Parlement européen, mais ils peuvent au moins constater les dégâts. Et donc c'est absolument sans appel, puisque, disent-ils, la directive est dépassée, je vous donne lecture, en partie par une jurisprudence libérale de la Cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la Cour de justice de l'Union européenne a, à chaque fois qu'une affaire a été portée devant sa juridiction, a considéré malgré tout que il s'agissait de ne pas entraver le commerce intérieur et de pas entraver la liberté d'établissement dans l'Union. Je rappelle que la Cour, elle s'appelle Cour de justice, mais en réalité, c'est une Cour de justice qui traite les trois quarts du temps des différends entre entreprises. Et donc, la finalité dans plusieurs de ces rapports est qu'elle est là pour améliorer, en toute lettre, elle le dit, la productivité, les échanges, entre guillemets, il faut comprendre, la croissance, au sein de l'Union. Et donc, elle prend effectivement des positions qui sont toujours très libérales. Donc, effectivement, première des choses, eh bien, l'interprétation de la jurisprudence, finalement, va toujours dans un sens du moins, disons, social. Alors, que dit aussi cette note? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, elle dit, une directive... Alors, bon, les arguments, hein, c'est l'exception aux obligations générales des traités visant à éliminer... Bon, bref, passons. Elle dit, une directive qui est inadaptée à la situation économique actuelle. Et oui, parce qu'on est en crise. Donc,
bah oui.
Elle met en concurrence les travailleurs des pays d'origine et les travailleurs des pays d'accueil sans organiser les conditions équitables de cette concurrence. Il parle bien sûr de la directive, puisque la situation économique actuelle de l'Europe est caractérisée par la crise, donc et par le chômage de masse, bien entendu. D'une part, la directive favorise le développement d'un dumping social légal. C'est elle qui l'écrit, c'est la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire l'exportation dans certains pays de travailleurs rendus compétitifs par un coût du travail plus faible. Ça, on a compris. Car le fait qu'il soit prévu le maintien de l'affiliation au système de sécurité sociale du pays d'origine représente un avantage comparatif non négligeable pour un pays où les charges sociales sont les plus faibles. Imaginez quel est le pays qu'elle va prendre en exemple pour citer. Elle parle bien sûr de l'Allemagne, qui utilise des travailleurs de l'Est pour, dans sa filière porcine, et donc qui concurrence l'Europe entière. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi l'Allemagne est, dans certains secteurs, une grande exportatrice, là, on a une réponse, par exemple. Voilà. La directive n'a en effet abordé la question du contrôle, du respect des normes que de manière limitée, alors même que celle-ci est essentielle. Car, en l'absence de réels mécanismes de contrôle, la directive favorise le développement de faux détachements. Là, on passe à la fraude. Et là, de l'avis de tous, le dispositif de contrôle embryonnaire est peu dissuasif et il est tout à fait inefficient. Ce qui se comprend aisément dans la mesure où d'une part il subit la contrainte de la barrière linguistique et d'autre part repose sur la bonne foi de la volonté de coopération des États. Bref, voilà. Les États membres sont malheureusement dans l'incapacité presque totale de contrôler le respect de la directive pour plusieurs raisons, et une première raison étant... Les contrôles, ça, c'est une personne qui a auditionné, c'est un inspecteur du travail. Ces contrôles sont par nature difficiles. Il s'agit d'un droit compliqué qui fait intervenir des autorités étrangères sur la base de pièces dont on ne peut attester l'authenticité. Je serai inspecteur du travail avec une lourde charge de travail. Il est clair que ces contrôles chronophages et sans réelle efficacité ne seraient pas pour moi prioritaires. En clair, ce qui explique cette personne, c'est corroboré par les témoignages des inspecteurs du travail, c'est que il est parfois plus cher d'envoyer un accusé de réception.
Un ouvrier à bas prix. Ouais.
Non, il est parfois plus cher d'aller chercher les textes dans les pays d'origine. Voilà. Voilà. Donc, etc., etc. Enfin, une directive qui laisse ouverte la porte aux fraudes. Et là, j'aime autant vous dire, et on l'a vu dans les années 2005-2007, que c'est cotonneux parce que c'est là que se situe en fait le vrai problème, bien entendu. Par exemple, hein, il est vrai que la France détache à l'étranger environ 300 000 personnes. Pas très connu. Voilà. Mais
combien tu dis 300 000 personnes
hein, ouais. La France demeure le troisième pays exportateur de travailleurs détaché derrière la Pologne, le fameux plombier polonais, et l'Allemagne. Voilà. Mais l'esprit de la directive a été dévoyé par des stratégies de contournement et de fraude, ouais, en favorisant la prestation de services internationaux sans mettre en place une véritable procédure de contrôle. Elle a laissé le champ libre au développement d'une fraude, de plus en plus de prestataires de services peu scrupuleux offrent à des entreprises nationales, parfois non moins scrupuleuses, des salariés à bas coût en maquillant les conditions de détachement pour répondre formellement aux conditions d'application de la directive. Je sais, c'est méchamment jargonnant. Le ministère du Travail estime ainsi à 220 000, à 300 000 le nombre de salariés low cost présents sur le territoire français sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable de détachement. Ok,
d'accord.
Donc ça veut dire travail au noir dissimulé.
C'est clair.
Donc c'est au moins 300 000 personnes. Voilà. Donc parmi tout ça, eh bien il y a la fraude simple qui consiste à un manquement au principe de la directive, très simplement. Donc défaut de déclaration de détachement, défaut de certificat d'affiliation au régime de sécurité sociale. En résumé, on ne paye pas la sécurité sociale dans les pays d'origine. Et oui, on ne peut pas vérifier,
bien sûr.
Non paiement des salaires et des heures supplémentaires, c'est un classique. Et dépassement de la durée de légale du travail, c'est aussi un classique. La fraude complexe, qui recoupe tous les montages frauduleux, travail illégal, non-déclaration intentionnelle des accidents de travail, abus de vulnérabilité par des conditions de travail incompatibles avec la dignité, esclavage moderne et trafic d'êtres humains. Je rappelle que c'est la commission, ce n'est pas la commission, il s'agit bien d'un rapport de la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale.
Ça,
voilà.
Oui.
Donc pour vous dire, alors elle est même l'objet d'une publicité massive reçue dans les entreprises des secteurs concernés, bâtiments et travaux publics et agriculture notamment. Voilà. La fraude fait office de publicité.
Non, j'étais plus esclavagiste.
Alors voilà. Donc je voulais terminer la dernière chose. Le plus souvent, la grande fraude qui est très intéressante, c'est l'entreprise coquille vide ou boîte aux lettres. Ce qui signifie que l'entreprise coquille vide ou boîte aux lettres, c'est simple, vous vous affiliez. Je vais terminer là-dessus parce que voilà, vous vous affiliez à une, vous créez une entreprise dans un pays, donc la Pologne, la Tchécoslovaquie, c'est une boîte aux lettres. Cette entreprise n'existe pas, mais elle va vous permettre comme ça, en France, de recruter 14, 15 000 autant de Polonais, de Tchèques que vous voulez. Pour les faire travailler en toute illégalité ou en toute impunité.
Merci Ludo. Tu voulais intervenir, Christophe?
Alors ça, c'est une magnifique démonstration. Alors on aurait dû un discours radical de la gauche, hein, et pourtant c'est un rapport de la Commission européenne de l'Assemblée nationale française. C'est très intéressant. En fait, c'est la contradiction du capitalisme à tout va, c'est-à-dire que devant cette possibilité d'exploiter, comme on est en crise, ça ne crée pas de croissance, donc de richesse supplémentaire, bien au contraire. Et surtout, en termes de fraude, c'est un énorme coût à l'État. Alors
oui.
Du coup, les politiques français râlent, parce que ça leur coûte des milliards d'euros. Parce que attention, hein, 300 000 salariés non déclarés, c'est pas une fraude à un milliard d'euros. Hein.
Oui, et puis d'autant que l'air de rien, on a dit bon là on a sorti des chiffres à peu près 300 000, ça commence à faire pas mal. Hein.
C'est pas beaucoup, c'est énorme. Oui.
Quand il y a 3 millions de chômeurs, c'est mieux que les 500 000 emplois vacants. Hein. Et là, 300 000, c'est juste la fraude. Mais si vous voulez, dans les régions où il y a 18% de chômage, donc au hasard le Pas-de-Calais, dans le Nord, et où donc qui sont proches quand même des frontières, les plus proches, et où c'est là côté-là. Que bah, par exemple les grands chantiers nationaux entre guillemets, je veux dire des entreprises nationales type EDF qui recrutent alors qu'ils font une méga publicité pour leur implantation, ouais. Voilà leur nouvelle recrutent la moitié de leurs salariés en travailleurs détachés au lieu des gens qui sont sur place, et ben il faut pas s'étonner que dans ces régions le Front National fasse un carton. Parce que, bah oui, c'est ça l'Europe aujourd'hui, et ça l'est de façon structurelle, c'est-à-dire que le fond de l'Europe et de cette directive-là, c'est bien, au bout du compte, de mettre en concurrence les salariés entre eux, parce qu'en favorisant la mobilité, il ne peut pas en être autrement. Quelque part.
Mais je voudrais pas être naïf, mais je crois que je le saurais automatiquement dans ce que je vais dire maintenant, mais il me semble quand même qu'on a besoin de l'Europe, puisque maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Bon, même si le Front National fait tout un plébiscite sur le fait de revenir au franc, etc. Voilà, ce qui est une aberration.
Il n'y a pas que lui, c'est pas forcément une aberration.
En même temps, on a besoin de l'Europe, parce qu'il faut quand même faire face à ce qu'on appelle les Américains et les Chinois, et puis même les autres, à la limite.
Tu l'as vu l'efficacité, là?
Oui, pour l'instant, elle est un peu nulle, mais bon,
Je veux dire en termes commerciaux, parce que moi, je suis d'accord d'aller négocier le TAFTA avec les Américains.
Non, ce qu'il faut, c'est une Europe sociale, une Europe plus humaine. C'est pour ça qu'il faut aller voter à l'Europe pour
d'accord. Et tu l'as vu, l'Europe sociale?
Non, pas encore, mais j'y crois encore un petit peu quand même. Donc,
je fais partie des utopistes européens.
Voilà,
des bénioïstes.
Des bénioïstes, voilà.
Non, mais bon, que les choses soient claires. On n'a pas forcément dit qu'on était contre l'Europe.
Non, j'entends bien.
Ici, on a juste dit qu'on était contre cette Europe-là.
Là. Absolument.
Nuance.
Ouais, très bien. Nuance.
Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on finit. Il reste quelques minutes, non? Mais je crois qu'effectivement, donc merci messieurs. Donc merci à mes deux reporters de guerre, puisque c'est la guerre avec.
C'est la guerre au chômage. Oui.
Ok, donc puisqu'on parle hors micro, donc je reprends l'antenne pour dire simplement que merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, comme d'habitude. Et je dis qu'effectivement, il faut continuer à résister. Les libéraux nous ont tout pris, ils vont tout nous prendre encore, mais nous gardons notre humour. La preuve, cette émission a été.
On aurait même plus nos boutons de culotte.
On a un peu ri dans cette émission, mais bon, même si les sujets sont graves et importants, mais voilà, faut quand même garder un petit peu de l'humour et surtout de l'énergie pour continuer à combattre cette Europe-là, en tout cas. Mmh. Voilà, donc je vous dis merci à tous de nous avoir entendus. Exact. Donc effectivement, j'ai une annonce que j'ai failli oublier. Je vous rappelle ça. Donc les négociations inédites, le chômage 2014-2016, chômeurs précaires, CDD, contractuels, intermittents du spectacle, pigistes, etc. Contre le projet d'accord pour l'indemnisation des centres de tous. Les chômeurs précaires en lutte, ça continue, bien sûr. Donc c'est pour permettre aux salariés de refuser la précarisation de l'emploi et de baisser les salaires d'embauche que l'assurance chômage a été créée pour les syndicats. Par les syndicats avant la généralisation de l'État par l'État au lendemain de la guerre et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Casser les droits à l'assurance chômage est pour les employeurs un bon moyen pour réduire la résistance des salariés. L'accord sur l'assurance chômage valable 2 ans à compter du 1er juillet prochain conclu entre le patronat et le CFDT, CFTC et FO va être corrigé. Les signataires avaient accepté une injustice inacceptable pour le gouvernement. Ce projet est à rejeter globalement. Il reprend l'essentiel du dispositif actuel qui pourtant n'indemnise qu'un chômeur sur deux. Il ne propose aucun financement nouveau pouvant contribuer à l'indemnisation de 100% des chômeurs et précaires. Voilà. Donc le gouvernement doit admettre que l'accord est à rejeter. Il doit en refuser l'agrément. La mobilisation a déjà permis d'éviter la suppression des annexes intérimaires et intermittents. La mobilisation doit continuer maintenant et elle doit s'amplifier pour gagner les droits nouveaux dont nous avons besoin. Voilà. Donc bientôt une prochaine réunion des partenaires sociaux pour conclure un nouvel accord. Le jeudi 15 mai, une mobilisation contre l'austérité à l'appel des syndicats et des fonctionnaires. Et le jeudi 22 mai, réunion au bureau de l'UNEDIC, mobilisation assurance chômage. Donc allez-y, excusez-moi, je l'ai lu un peu rapide parce que l'émission se termine. Mais allez-y, donc c'est le jeudi 15 mai et le 22 mai, hein, n'oubliez pas. Nous vous y attendons. Voilà. Merci à tous. Donc merci à tous de nous avoir entendus et écoutés. Je continue à vous dire qu'il faut continuer à résister et rester bien sûr avec un peu d'humour si vous pouvez le garder. C'était 1000 sous 1000. Merci à tous. Bisous aux filles et poliment aux garçons. Ciao.
Bonsoir. Bonne soirée.